Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons passer une heure ensemble sur Europe 1 et vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents français, des patronnes, des patrons qui ont des idées pour faire face à la crise, des acteurs de la société qui prennent des initiatives. La France bouge, c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et tous. C'est le Dry January en ce moment. En bon français, ça veut dire que c'est un mois de janvier sans alcool. Une tendance de plus en plus suivie. Alors justement, quel est ce marché du sans-alcool? Comment les géants du vin et des spiritueux s'adaptent à cette nouvelle concurrence? On en parle jusqu'à 14h avec Marie-Laure Berny-Tarrant, c'est la directrice générale de Drinks & Co, filiale de Pernod Ricard. Est-ce qu'on le présente encore? Numéro 2 mondial du secteur.
Elle a une en effet, l'alcool sans alcool. Une start-up s'est mise sur ce créneau. Elle propose des jolies bouteilles de boissons qui ressemblent à du vin, du champagne. Ça s'appelle le Petit Béret et nous allons les découvrir d'ici quelques minutes.
On va aussi aller voir une brasserie qui propose là une bière sans alcool. Et cette brasserie y a pensé dès les années 70. C'est la brasserie Goudal. Elle est dans le nord de la France et ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1 La France Bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France Bouge et notre partenaire CCI France ont retenu Explorapi, des défis à réaliser en famille. Ça tombe bien, c'est le week-end demain. On découvrira le pitch à 13h45.
Et bien sûr, demain on travaille, on passera un coup de fil chez Norcer. C'est une entreprise de micro-crèche. Là-bas, plus de bureaux fixes. Ils nous diront comment ils ont fait. Et puis, bah, c'est quand même ça le plus important, si ça plaît aux salariés.
Bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Et avant de commencer, on voulait une fois de plus vous dire merci avec Elisabeth. Merci d'être chaque jour plus nombreux à écouter La France Bouge. Un plus de 100 000 auditeurs en plus sur la dernière.
104 000,
vous avez raison.
On vous prend tous.
On vous prend tous et on pourrait dire qu'on débouche le champagne, mais pas que, puisqu'on va surtout déboucher de l'alcool sans alcool aujourd'hui.
Bonjour Marie-Laure Berny-Tarrant.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de Drinks & Co Store. C'est une filiale du grand, du géant Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est le numéro 2 mondial du secteur des vins et des spiritueux. Drinks & Co, donc l'entreprise que vous dirigez, propose des spiritueux du monde entier. Comment? À travers des magasins d'un nouveau genre, puisque les clients peuvent goûter la totalité des alcools proposés à la vente. Alors, j'ose pas imaginer dans quel état ils sortent du magasin.
Ils sont pas obligés de tout boire, ils peuvent essayer.
Si vous vous invitez aujourd'hui dans la France Bouge, c'est parce que nous sommes en plein Dry January et on veut savoir comment se porte la vente d'alcool. La part de non-alcool, est-ce que vous avez le sentiment, Marie-Laure Berny-Tarrant, que ce Dry January, ce mois sans alcool, est suivi cette année?
Absolument. Et pas que cette année, le Dry January, la tendance à la consommation plus responsable, plus modérée, se confirme depuis déjà quelques années.
Mais alors cette année, quand vous dites oui, ça se confirme, vous le voyez à travers quoi?
Alors, il y a quelques chiffres. Là, c'est un petit peu tôt pour avoir les vrais indicateurs, puisqu'on les aura à la fin du mois. L'année dernière, en France, à peu près 3% des personnes françaises ont suivi le Dry January. Cette année, on atteint à peu près 10% plutôt de tendance de suivi de cette...
Ah oui, donc c'est quand même extrêmement important. Alors, beaucoup commencent. On ne sait pas exactement combien termine véritablement le mois. Mais ce que l'on voit, c'est qu'au-delà de ce Dry January, de plus en plus de personnes limitent leur consommation d'alcool. Est-ce que vous voyez du coup une baisse tendancielle de la consommation d'alcool sur ces dernières années?
Alors oui, on voit une baisse tendancielle qui n'est pas juste sur ces dernières années, mais même sur ces dernières décennies. La baisse d'alcool continue depuis déjà une trentaine d'années. Peut-être à peu près moins 2%, un petit peu plus. Et par contre, en termes de valeur, de premiumisation, les paniers moyens augmentent.
C'est-à-dire qu'un petit peu comme sur la viande, on en consomme moins, mais on en consomme de meilleure qualité. C'est ça que vous voulez nous dire? On pourrait comparer les phénomènes?
Absolument, c'est exactement cette même tendance. On est tous dans une démarche plus éco-responsable. On a envie aussi de boire avec plus de modération. On n'est pas en opposition qu'on boive de l'alcool ou non, mais c'est la modération qui est importante.
Alors, qui sont ces consommateurs qui ont décidé d'arrêter l'alcool? Même si, vous le dites, la consommation est moins importante d'alcool. Dans toute cette baisse de consommation d'alcool, il y a une frange qui a décidé de tout arrêter. C'est qui? Ils ont quel profil?
Alors, ils ont un peu tous les profils. Je crois que c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Il y a des gens qui ne boivent pas par conviction religieuse ou pour des raisons de santé. Il y a aussi des gens qui préfèrent faire des abstinences.
C'est par choix.
Absolument, temporaire. Mais par choix, je crois qu'aujourd'hui, c'est une tendance au bien-être, à une meilleure santé, à toutes ces tendances un petit peu plus actuelles que le Covid ont accentuées aussi. Et ça, c'est une vraie démarche. Et aujourd'hui, il y a une proposition en termes d'alternatives à l'alcool qui est beaucoup plus riche et qui permet de toucher un petit peu tous les palais et d'offrir des saveurs nouvelles.
On va voir justement ce que vous proposez, vous, hein, du côté de Pernod Ricard, numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Peut-être juste un point. Quand on dit sans alcool, je crois que la réglementation française est très précise. C'est vraiment sans alcool. Je crois qu'on va au maximum à 0,7%.
0,5%
d'alcool. Hein. C'est très précis. Parce qu'au démarrage de cette tendance, on montait un peu, mais par exemple, des cidres qui vont jusqu'à 6 degrés parfois, ça ne rentre pas dedans.
Non, absolument. Et la norme européenne considère comme sans alcool toutes les boissons qui sont sous 1,2%. Mais maintenant, c'est passé à 0,5%. C'est la norme actuelle en France.
Quelle est la différence, pardonnez-moi de la question, mais avec des jus?
Alors, un jus un petit peu fermenté ou une banane mûre, il y aura un tout petit peu d'alcool dedans, mais on sera en dessous de ce 0,5%.
Mais alors comment vous appelez alors vos produits, puisque c'est pas de l'alcool, que vous avez des droits, des appellations à respecter?
Alors, il n'y a pas tellement d'appellations, justement, même au niveau européen, c'est pas tellement défini comme
ça. Vous avez le droit d'appeler vin sans alcool?
On a le droit d'appeler ça du vin sans alcool. Il y a trois grandes catégories. La partie vin qui utilise effectivement des mous de jus de raisin blanc, ou rouge, dans lesquels il n'y a pas de fermentation, donc il n'y a pas de création d'alcool. Il y a ce qu'on appelle des hard seltzers, c'est une catégorie d'eau gazeuse dans laquelle il peut y avoir un tout petit peu d'alcool, mais on est sous les 5% et il n'y a pas de rajout de sucre. Et puis ensuite, il y a des alternatives de spiritueux qui sont des botaniques distillées qu'on désalcoolise ou dans lesquelles on n'intègre pas ce stade de fermentation qui crée de l'alcool.
Chez Pernod Ricard, vous avez fait partie des premiers à lancer des produits sans alcool. On se souvient du Pacifique, qui était le Ricard sans alcool, qui existe toujours dans les rayons. Mais vous êtes aujourd'hui en train d'accélérer également sur ce marché pour proposer des alternatives. Donc c'est une vraie concurrence pour vous. Donc il faut y aller quand on est l'un des leaders mondiaux du marché de l'alcool.
Ah non, c'est pas une concurrence, c'est vraiment c'est un besoin et c'est une tendance de nos consommateurs. Pernod Ricard est un groupe qui se définit par rapport aux consommateurs, qui est au centre de tous nos développements, de tous nos investissements. Non, c'est quelque chose qu'on embrasse. Autant on est le numéro 2 mondial des vins et spiritueux, on est aussi le numéro 1 mondial sur les segments premium de spiritueux et les segments prestige. Et pour le coup, sur ce segment du sans-alcool, effectivement, c'est une tendance qui est généralisée.
Vous avez l'ambition d'être numéro un mondial du vin sans-alcool, de l'alcool sans-alcool? Ce serait une ambition du groupe?
Alors, je ne peux pas parler au nom du groupe, mais en tout cas, chez Drinks & Co, on a l'ambition, effectivement, d'être l'établissement à Paris avec le plus de références de sans-alcool.
Marie-Laure Vernier-Tarente, vous êtes la directrice générale de Drinks & Co Store, une filiale de Pernod Ricard, et vous restez avec nous pour parler de ce mois sans alcool.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Vous faites peut-être partie de ceux qui font ce qu'on appelle le dry January, hein, ce mois sans alcool en ce mois de janvier pour se purifier des excès, même si pour beaucoup d'entre nous, ils ont été sûrement moins importants que d'habitude en cette fin d'année, mais un mois sans alcool qui est donc particulièrement suivi, hein, cette année. C'est ce que nous a dit notre grand témoin du jour, Marie-Laure Vernier-Tarente, qui est la directrice générale de Drinks & Co, qui est une filiale de Pernod Ricard.
Alors effectivement, vous l'avez dit Emmanuel, on est dans ce dry January et plus profondément dans cette tendance du sans alcool. Hein. Les études le montrent. La consommation d'alcool des Français est en baisse sur les dernières décennies et ce désintérêt pour l'alcool, ça profite à des start-up. Ainsi, une start-up a lancé il y a 3 ans des bouteilles de vin sans alcool et c'est la vôtre, Fatih Benny. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur du Petit Béret. Tout se passe à Béziers. Vous êtes ingénieur dans l'agroalimentaire et l'idée, à la base, elle est venue de votre expérience personnelle. Vous ne buvez pas d'alcool. Vous étiez toujours un peu frustré de boire de l'eau, des jus de fruits, des boissons sucrées quand vous étiez avec des amis pendant les fêtes. Et donc, vous vous êtes dit, moi j'en ai marre de boire de l'eau. Je veux aussi me créer ma propre bouteille de vin sans alcool. Et c'est ainsi qu'est né le Petit Béret. Qu'est-ce que vous proposez ?
On propose avec Dominique Laporte, le meilleur sommelier de France, qui est le cofondateur du Petit Béret, une boisson d'accompagnement qui permette aux personnes qui ne peuvent pas boire d'alcool d'accompagner un plat, puisqu'effectivement, la convivialité, c'est quelque chose qui est très à cœur des gens du Sud, notamment sur notre région.
Oh bah dans le Nord au Sud, je vous rassure.
Nord, partout en
France, quel que soit l'endroit où on vit en France, on est convivial.
Exactement. Mais du coup, on voulait une boisson qui ait une teneur en sucre qui soit faible, une boisson qui soit naturelle, consommable par tout le monde, mais surtout qui nous donne une typicité aromatique de cépage et une vraie découverte. Et c'est comme ça qu'on a initié notre recherche et développement avec l'INRA et qu'on a fait 3 années de recherche et développement.
L'idée, c'est que ça a exactement le même goût, mais il n'y a pas d'alcool dedans.
En fait, exactement le même goût. Le vin, c'est un marché de diversité. Quand on aime les vins de Bordeaux, on n'aime pas les vins d'Alsace. C'est différent des vins de Bourgogne. Ou quand on aime les vins de Côte-du-Rhône, on a des typologies différentes. Je pense qu'aujourd'hui, notre vision, c'est de dire que Petit Béret est une diversité, une nouvelle diversité de l'univers du vin, une découverte, et que faire un copier-coller du vin, ce n'est pas l'ambition. L'ambition, c'est de donner une expérience et de retrouver le cépage et le cœur de la viticulture.
Mais soyons très concrets, parce que donc ce sont des vins sans alcool. Prenons par exemple votre bouteille de blanc, qui est du Cabernet Sauvignon, parce que là, en revanche, vous reprenez vraiment la terminologie d'un vrai vin.
Il s'appelle pareil,
hein, c'est un Cabernet Sauvignon. De façon très concrète, comment il est fabriqué, ce vin sans alcool, ce Cabernet Sauvignon ?
Il existait une méthode depuis 20 ans qui était les vins désalcoolisés. On prend du vin, on vinifie et on retire l'alcool. Avec Dominique, on a fait le parti pris de faire 5 années de recherche et développement parce qu'on fait de la low-tech. Petit Béret, c'est de la low-tech. On part d'une filière agricole, on prend du raisin, qu'on presse et on crée une technologie pour donner l'expression du raisin sans fermentation alcoolique. À savoir, la diminution de la teneur en sucre. Quand on prend un jus de raisin, typiquement, c'est très sucré. Le Petit Béret ne contient que 1 à 2 grammes de sucre par verre. Et c'est quelque chose d'extrêmement agréable. On élimine les pesticides et métaux lourds. Ça, c'est quelque chose de très important sur la sélection des cépages. Et la troisième élément qui est hyper important pour nous, c'est qu'on a une boisson qui est réellement 0,0% d'alcool.
Ça veut dire qu'une personne diabétique, elle peut boire votre boisson.
Je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas de donner cette orientation. Mais en tout cas, si vous comparez aujourd'hui un jus de raisin et du Petit Béret, on est 5 fois moins sucré qu'un jus de fruits.
Et vous êtes vraiment allé sur l'idée de la convivialité, puisque vous avez, pardon aux gens de la Champagne, je veux dire un champagne sans alcool, mais vous mettez bien un effervescent, mais vous êtes allé sur la vraie bouteille de champagne, elle a exactement la même forme,
Oui,
j'ai tout essayé, je peux le dire, j'ai eu ça comme cadeau de Noël, si vous voulez tout savoir, et donc j'ai tout essayé avant même de savoir qu'on allait vous recevoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous êtes allé sur les codes du vin, en revanche.
Un non-consommateur d'alcool, il a des attentes, c'est un consommateur classique. Son attente principale, c'est de ne pas avoir de différence. Petit Béret est une marque et un produit qui doit fédérer. Donc, de casser une différence, moi j'ai toujours été frustré d'être exclu avec mon verre de coca ou ma brique de jus de fruits ou ma petite bouteille de Perrier, alors que mes amis avaient des super cocktails ou avaient des super boissons d'accompagnement. Et moi, à table, quand on habite près de l'étang d'Auto, pour les citer, on fait des huîtres qui sont fantastiques ou des fruits de mer. Accompagner nos huîtres d'étang d'Auto avec de l'eau, c'est frustrant. Alors, pourquoi pas créer une boisson? Effectivement, la forme de la bouteille est très proche.
Fatih Béni, aujourd'hui, vous êtes présent dans 37 pays dans le monde. Vous venez de terminer une levée de fonds, 1,5 million d'euros levés. D'abord, félicitations, surtout en ce moment. Ça va servir à quoi?
Petit Béret, une vraie start-up, c'est un vrai projet entrepreneurial. On est parti de zéro, on a financé la R&D pendant 5 ans. Notre ambition, c'est de se développer à l'international. On a triplé notre masse salariale, donc on a vraiment créé des emplois.
1700 employés. Hein.
Tout à fait, 17 emplois. Et on a vraiment la vocation de développer la filière viticole. Donc l'ambition, c'est de continuer de recruter et de créer des emplois, amener une perspective à la filière viticole, notamment aux producteurs de raisins, et de pouvoir se développer à l'international avec des circuits courts et continuer de développer nos innovations.
Marie-Laure Berny-Tarrant, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Drix & Co, filiale de Pernod Ricard, Pernod qui fait également du vin. Est-ce que le vin sans alcool, made in Pernod, si je peux dire, c'est quelque chose sur lequel vous avez envie d'aller ?
Alors c'est quelque chose sur lequel on va déjà, effectivement, en tous les cas en Australie en ce moment, avec le maître de chais de winemakers de Jacob's Creek. On est en train de travailler sur différentes références avec 50% de moins d'alcool. Et nous, on a cette marque Ceders qui utilise le même processus de fabrication, c'est-à-dire tout un processus dans lequel il n'y a pas la fermentation. Et c'est donc pas une boisson désalcoolisée, mais c'est une alternative de gin qui est construite autour de botaniques infusées sans aucun processus d'alcool.
Là, on est au tout début de ce marché, mais on voit qu'il y a un potentiel, puisqu'on disait les gens qui ne boivent pas du tout d'alcool, on pense à certaines communautés religieuses, on pense aux femmes enceintes, aux diabétiques, mais également à tous ces gens qui ne veulent plus de façon temporaire boire de l'alcool. Il y a donc un marché gigantesque face à vous tous.
Un marché gigantesque, d'autant que toutes les jeunes générations, les millennials, moi j'ai 4 enfants, ils sont exactement dans cette tranche d'âge, ils ont tous une appétence à moins boire et à contrôler leur consommation.
C'est-à-dire que vous dites que les jeunes ont une consommation plus responsable aujourd'hui ?
Beaucoup plus responsable, oui, absolument.
On n'est plus jeunes, donc...
Fatih Benny, il faut le rappeler, hein, elles sont accessibles, vos bouteilles, hein, c'est-à-dire pour nos auditeurs qui ont envie de s'en procurer. Elles coûtent entre 6 et 10 euros, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est Fatih important Béret, de le dire.
Tout à fait, c'est une marque familiale. Et on a vraiment la philosophie de pouvoir créer de la convivialité accessible à tous. Donc c'est aussi important pour nous de pouvoir le rendre accessible.
Merci à vous Fatih Benny, d'être venu nous présenter le Petit Béret dont vous êtes le cofondateur, donc de ces vins sans alcool. Merci à vous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Comme chaque jour, on est très heureux avec Elisabeth Assayag de vous accueillir en direct sur Europe 1 entre 13h et 14h dans cette France Bouge aujourd'hui. On parle d'alcool sans alcool, on parle de dry January et je vous assure que la fête peut être folle également sans alcool. Marie-Laure Bernie-Tarente, vous êtes notre grande témoin, directrice générale de Drinks & Co, l'une des filiales de Pernod Ricard. Alors pendant les confinements, on a bu plus d'alcool à la maison, bien évidemment parce que les restaurants et les bars étaient fermés. Couvre-feu là, avancé à 18h, c'est une super nouvelle pour vous parce qu'on va se remettre à boire un peu plus à la maison ?
Alors on ne boit pas plus à la maison, mais on ne boit plus qu'à la maison. Attention, il y a un effet de loupe, effectivement. On boit à peu près 80% généralement de la consommation d'alcool spiritueux se fait à la maison ou chez des amis. 20% se font dans le réseau CHR.
Donc, CHR, c'est juste... café, hôtel,
absolument, pardon. CHR, café, hôtel, restaurant. Donc c'est vraiment un effet de loupe. On boit, effectivement, avec le confinement, on boit seulement à la maison, donc on le voit, mais on ne boit pas plus.
Mais qu'est-ce qu'on boit le plus à la maison, même en ce moment, pendant les couvre-feux, notamment avec
on a le droit de dire au-delà du sans alcool.
Alors, je pense que les catégories d'alcool qui fonctionnent bien aujourd'hui, en tous les cas, nous, ce qu'on aime, c'est un peu de la mixologie et les cocktails, c'est le rhum et le gin. Effectivement, on a des tendances qui sont relativement à la haute. Ce sont des alcools assez faciles à mixer.
Avec modération, évidemment.
Avec modération, évidemment. Nous, on recommande deux verres. Et au bout de deux verres, effectivement, il faut passer sur un cocktail sans alcool.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Marie-Laure Bernie-Tarente, parce que le gin fait son retour en force en ce moment.
Oui, le gin fait son retour. Il y a énormément d'initiatives en France, de petites distilleries qui lancent des produits avec ou sans alcool. Hein.
Il y a énormément de botaniques. Mais comment vous expliquez cet engouement ? Il remplace quoi ?
Alors, il ne remplace rien. Les whiskies sont toujours la première grande catégorie. Le gin s'adresse à une population un petit peu plus jeune, souvent. Il y a une richesse dans les botaniques, dans les parfums, dans les valeurs organoleptiques du produit, qui font que ça touche énormément de personnes.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même une mode ou une tendance, puisque pour vous raconter notre vie, quand on a préparé cette émission avec Elisabeth, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on buvait quand on était jeune ? Bon. Certes, c'était il y a très longtemps, mais nous, on buvait du Malibu en bois.
Malibu Coca.
On buvait du saut orange.
Ça existe encore, Malibu Coca ?
Et on s'est dit qu'on était vraiment vieux.
Bah écoutez, je dois avoir le même âge que vous, désolée. Mais on parle
à peu
près des mêmes références.
Qui a à peine 22 ans en régie, nous me fait des grands signes. Moi, je bois du Malibu Coca. Donc bon, avec modération.
Mais c'est vrai que là, sérieusement, le gin fait partie véritablement des alcools qui aujourd'hui sont à la mode chez les jeunes et chez les moins jeunes.
Oui, parce que le gin, aujourd'hui, on trouve de nombreuses références craft. On trouve de très très jolis produits qui sont bien travaillés, qui viennent de tout type de pays. Et qui contribuent à leur succès.
Alors, Marie-Laure Bernie-Tarente, vous êtes la directrice générale de Drinks & Co. Store. On va un petit peu aussi en parler, parce que ce sont des magasins d'alcool et de food bar. Ils sont ouverts en ce moment ?
Alors, on a ouvert le premier concept store, effectivement, à Paris, début décembre.
Ok, et là, avec la crise sanitaire, vous arrivez à rester ouvert ?
Absolument, okay. La partie boutique est ouverte.
Donc, elle est ouverte. C'est donc à Paris, boulevard Haussmann. C'est la première fois que Pernod Ricard se lance dans le commerce, hein, qui s'adresse directement, il va directement voir sa clientèle. Pourquoi vous vous lancez là-dessus ? Il y en a déjà assez sur le marché.
Alors, c'est un concept totalement différent. C'est un lieu très hybride dans lequel on prend le contre-pied de la distribution existante.
Donc, c'est-à-dire
qu'on a dans un seul et même lieu la possibilité d'offrir aux clients toutes les expériences qui sont liées au domaine de la boisson. Donc l'achat, l'apprentissage, très bientôt on espère la restauration, la célébration avec des after-work, et puis la consommation avec les cocktails.
Mais c'est vrai que c'est un gros virage pour Pernod Ricard. Vous n'étiez comme ça jamais allé avec une marque à vous directement aussi près du consommateur. Pourquoi vous avez eu cette envie ? Parce qu'on y trouve bien évidemment les alcools de Pernod Ricard. Mais pas que, il y a une gamme assez extraordinaire.
Absolument, mais pas que. C'est un espace hybride et c'est un espace multimarque. Donc il y a à peu près 30% des produits qui sont les produits Pernod Ricard. Ce sont à peu près la part de marché du groupe ici en France. Et le reste sont des produits un peu pépites, un peu niches, avec un positionnement très premium.
Vous êtes aujourd'hui donc à Paris, hein, vous l'avez dit, à Saint-Lazare, à deux pas de votre tout nouveau siège de Pernod Ricard. Vous êtes également à Shanghai, en Chine.
Oui.
Est-ce que vous avez vocation à développer cette marque partout en France et partout dans le monde.
Oui, parce que la marque s'appuie sur une marketplace aujourd'hui, donc sous un format e-commerce pour pouvoir offrir aux consommateurs une expérience 360. Et effectivement, le but, c'est de pouvoir dupliquer ce schéma de store dans le monde.
Parce que vous êtes basé aussi sur un concept, comment on pourrait dire, plus ludique. Parfois, quand on n'est pas un grand connaisseur de vin, entrer chez un caviste, ça fait un peu peur. On sait qu'on va avoir un super conseil, mais on se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir ? Là, l'idée, c'est d'avoir une gamme de prix très large, une gamme de produits très large, et que ce soit un peu, pardonnez-moi l'expression, drôle, même si c'est à consommer avec modération.
Non, absolument. Moi, la première, je rentrais dans un magasin de vin et spiritueux, c'est un petit peu impressionnant. On ne se sent pas forcément toujours à sa place. Mmh. Là, chez Drinks & Co, on prend le contre-pied de tout ça. Effectivement, il y a un côté expérientiel, serviciel qui est très développé. Et puis, on essaye de déstigmatiser les gens, qu'on ait envie de boire ou pas boire la boisson.
Il y en a pour tout le monde. Alors, chez vous, chez Drinks & Co Store, vous proposez de goûter vos alcools ou alors vos boissons non alcoolisées. Je vous propose d'aller dans le nord de la France, à la brasserie Goudal. Elle est l'une des rares brasseries qui fabrique et qui vend de la bière sans alcool, hein, la Celta, et ça fait déjà 50 ans.
Et c'est notre saga du jour, racontée par Dora Nana.
Europe 1, la France bouge, la saga.
C'est sur les terres du nord de la France que démarre l'aventure. On est dans l'entre-deux-guerres, à Douai, non loin de Lens, et quatre brasseurs mettent leurs économies en commun pour créer la brasserie des Enfants de Gaillan. Un nom en référence aux géants de Gaillan, symbole de la ville. Et ces bons hommes vont vendre leurs litrons de bière en les livrant à domicile. Dans les années 50, l'entreprise va être rachetée et ils vont se lancer dans des bières de spécialité jusqu'en 1970, où là, ils vont faire partie des premiers à se lancer sur le marché de la bière sans alcool en commercialisant la Celta. Dans une région et à une époque où le sans-alcool n'est pas franchement à la mode. André Péker, PDG de la brasserie Goudal et de celle de Saint-Omer qui a racheté il y a 10 ans la brasserie Gaillan.
Cette bière sans-alcool servait beaucoup à mettre dans les distributeurs automatiques de boissons, dans les usines. Comme ça, donc, il n'y avait pas d'alcool dans l'usine, mais les gens pouvaient boire une bière.
Une bière qui existe toujours, mais qui a connu beaucoup d'améliorations pour des clients au goût plus affirmé.
Vous savez, notre patron, c'est le consommateur. Aujourd'hui, ces bières sans alcool continuent à fonctionner, mais en France, pour être sans alcool, elle peut faire jusqu'à 0,5 °C, tandis que maintenant, la vraie sans alcool, c'est du 0,0, c'est-à-dire plus un gramme d'alcool. Et le client, aujourd'hui, veut du zéro avec des qualités. La bière sans alcool, il y a 10-15 ans, était bonne, mais ça ne sentait pas la vraie bière, tandis qu'aujourd'hui, nous réussissons à faire des bières sans alcool qui ressemblent pratiquement aux bières alcoolisées.
Faire une bonne bière, c'est comme faire un bon plat. Ça demande quelques ingrédients secrets, beaucoup de patience et de nombreux essais avant d'arriver au bon dosage et au goût recherché.
Comme le cuisinier exactement, donc on va mettre tel ingrédient, on va faire fermenter, on va la mettre en garde comme une bière normale et après on va déguster, mais on réussit jamais au premier coup. Hein. Il faut faire 4, 5, 6 brassins quelquefois. On essaye de trouver le petit défaut, bien la belle qualité et c'est passionnant.
Chaque année, ils sortent deux ou trois nouvelles bières pour répondre à un consommateur à la recherche de nouveautés. Depuis 5 ans, ils y ont consacré 180 millions.
Nous avons la chance d'avoir de l'argent et de pouvoir investir énormément. Quelquefois, les gens me disent « mais vous êtes fous d'investir alors qu'il n'y a pas le moral, il n'y a rien du tout ». Depuis 50 ans que je travaille, j'ai toujours investi, même quand ça ne marchait pas, parce qu'il faut croire en la vie, en l'avenir, il faut avoir la passion et se dire « demain matin, enfin dans 6 mois, dans un an, ça va repartir ». Et celui qui aura arrêté d'investir, il sera condamné un jour.
La bière qui, ces dernières années, a gagné ses lettres de noblesse.
Les gens n'osaient pas offrir un verre de bière parce que c'était vous prendre pour un minable. Aujourd'hui, en disant « veux-tu une coupe de champagne ou une bière ?» dans la région ici et dans beaucoup de régions, à 50%, les gens répondent « ah, si t'as une bonne bière, je prends une bière ».
Une entreprise qui ne connaît pas la crise, avec une croissance de plus de 30% en 2020 et un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros. Ils viennent de sortir une bière version Magnum et dans un mois, ils sortiront deux nouvelles bières sans alcool, la Goudal et la Saint-Omer.
La bière version Magnum, il faut être nombreux pour boire ça, pour bien évidemment consommer tout cela avec modération. Marie-Laure Bernitarande, c'est vrai que la bière sans alcool, c'est ce qui nous vient le plus à l'esprit quand on parle de non-alcoolisé, puisque c'est comme ça qu'on a commencé, mais ça marche aujourd'hui très très fort, puisque toutes les grandes marques se sont lancées dessus.
Absolument, et on le trouve quasiment dans tous les réseaux de distribution, que ce soit grande distribution ou caviste.
Marie-Laure Bernier-Tarande, vous êtes la directrice générale de Drinks & Co Store, filiale de Pernod Ricard. Vous restez avec nous jusqu'à 14h parce que maintenant vous allez dans quelques instants challenger un projet d'entreprise parce que c'est ça la France bouge.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et bien sûr qu'elle bouge cette France, notamment au travers de ses trophées Europe 1, la France bouge chaque jour, elle, où il tente de vous convaincre. D'abord convaincre notre partenaire, CCI France avec Nathalie Carré, elle est là, elle écoute. Hein, et convaincre aussi notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Marie-Laure Bernier-Tarande, qui est la patronne de Drinks & Co, qui est la nouvelle filiale de Pernod Ricard, où ils ouvrent des magasins, vous l'avez entendu. Ils veulent en mettre partout dans le monde pour vendre directement de l'alcool et du non-alcoolisé.
Et c'est le moment d'écouter une entrepreneur ou un entrepreneur qui se lance, qui a eu des idées, tiens, notamment pendant le premier confinement, comme vous, Stéphanie Chenavier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 47 ans, vous êtes la fondatrice d'Explore Happy. Ce sont des parcours clés en main, avec dedans des visites, des aires de jeu, des idées de restaurants, on espère, on croise les doigts un de ces jours, des pâtisseries, des anecdotes, des défis à réaliser en famille. Alors nous, on a adoré à la France bouge parce que vous avez de quoi nous occuper pendant les week-ends.
Vous êtes notre sauveuse.
C'est ça, on s'est dit avec Emmanuel, bon, on va le faire ce week-end. Ça a vraiment bien démarré depuis le mois de décembre. Racontez-nous votre projet. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Bonjour. Donc vous êtes parents, grands-parents, tontons, tata, et vous avez passé du temps, parfois beaucoup de temps, à organiser la sortie sur Paris en famille. Et là, c'est le drame. Maman, je veux rentrer. Maman, j'en ai marre. Et oui. Donc je suis aussi maman parisienne et j'ai aussi vécu ces grands moments de solitude. C'est pourquoi j'ai créé Explore Happy, des sorties ludiques clés en main où toute la famille s'amuse. Donc concrètement, vous l'avez dit, il y a dans les parcours donc un pas à pas détaillé avec une carte, des aires de jeu disponibles, des possibilités en fait de restaurants ou de pâtisseries pour le goûter ou pour le déjeuner, des astuces rigolotes à propos des artistes ou des lieux, mais également et surtout des défis à réaliser en famille. Donc les parcours Explore Happy sont en extérieur, sans contact, sans réservation. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez découvrir 6 parcours qui sont consacrés à la magie du street art. Et donc tout est prêt avec Explore Happy. Vous pouvez souffler et savourer sereinement vos sorties. Stop. En famille.
Je suis désolé, je suis maître du temps.
Oui, mais c'était pas... Ça y est, elle avait terminé.
Voilà, j'ai laissé les deux petites secondes. Vous n'avez pas dit combien ça coûte. Je suis sûr que certains sont en train de se dire un parcours, c'est 6 euros, deux parcours, c'est 10 euros et trois parcours, c'est 15 euros.
Et nous, on a adoré. Et maintenant, il va falloir aller au-delà de Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris en France. Non, c'est vrai. Il n'y a pas que Paris en France.
Non.
Donc vous allez peut-être vous diversifier, aller dans d'autres villes.
Tout à fait. Pour l'instant, je suis en Île-de-France. Mais effectivement, ce concept peut vraiment être dupliqué en fait, dans les autres villes en France, mais aussi à l'international, pourquoi pas.
Stéphanie, je vous présente Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Stéphanie, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors Nathalie, vous avez étudié, analysé Explore Happy. Quelles sont les forces et les faiblesses?
Alors déjà, pardon, 4 forces. Alors c'est un vrai sujet qui occupe l'esprit des parents. Je dirais surtout celui des mamans. Mais enfin, Emmanuel, je ne le dis pas.
Non, il est très investi.
C'est vrai que c'est un vrai sujet de magazine aussi, parentaux. Deuxième point fort, le prix très bas, donc accessible à tous, donc 6 euros le parcours. Le côté rien à faire, sauf à s'amuser avec ses enfants. Et puis, en fait, c'est un peu le principe de l'escape game, mais revisité et s'appeler beaucoup aux enfants et aux plus grands. Moi, je mettrais 2 points améliorés, du détail. Les parcours proposés sont principalement autour de l'art, ce qui peut ne pas motiver certains enfants. Il y a peut-être d'autres thèmes à imaginer. Et puis votre site, alors je sais que c'est un template que vous avez pris, enfin un modèle, mais votre concept fait vraiment rêver, il simplifie la vie de tout le monde, mais les sites ne nous permettent pas de plonger dans ce rêve et cet imaginaire. Je vous donne 2 exemples. Le parcours factice, par exemple, que vous mettez en démonstration, il n'est pas téléchargeable, il n'est pas lisible, c'est donc difficile d'avoir une idée de ce qu'on va acheter. Puis quand on sélectionne un parcours, la présentation n'est pas très agréable, le texte est sur une colonne serrée, les photos sont toutes collées en bas, il faut donc se déplacer dans la page, du coup on ne voit pas bien ce qui pourrait nous, voilà, ce qui vraiment nous fait rêver. Donc c'est qu'une histoire de conception, parce que le concept est vraiment super.
Donc concept formidable, Nathalie Carré vous dit, il faut revoir le site, il faut mieux le vendre en fait.
Pour revenir sur le premier point, merci en tout cas pour vos commentaires. Donc il y a des sorties sur le street art, mais il y a aussi des sorties au vert dans le parc de Saint-Cloud et également en fait aux Tuileries. Et merci beaucoup pour vos commentaires bienveillants. C'est du tout fait maison, mais j'apprends tous les jours et merci de toute façon.
Est-ce que c'est un point important? Vous dites je me débrouille seule et j'ai beaucoup appris à travers ce projet. Qu'est-ce que vous avez appris comme entrepreneuse, entrepreneur dans ce projet?
J'apprends tous les jours. Hein, l'actualité actuellement varie tous les jours. Donc, par exemple, quand il y a eu le deuxième confinement, j'ai décidé du jour au lendemain en fait, de faire des nouveaux parcours pour justement pouvoir apporter ces parcours, notamment dans le 15e ou dans le 12e. Voilà.
Donc, pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans?
Pardon ?
Pourquoi vous vous êtes lancée dans cette...
Je suis moi-même en fait maman et ça répondait vraiment à mon besoin.
Mais
en fait,
pourquoi maintenant ?
J'aurais adoré...
Pourquoi c'est le confinement ?
Actuellement, en fait, on a tant besoin en fait, de rêves et d'évasion. Et c'est ce qui nous manque, c'est si essentiel, je dirais. Donc je suis là pour apporter vraiment du positif, des super moments en famille. Et on en a tous besoin. Voilà. Donc mon objectif, c'est ça. C'est
et vous proposez de tout. Hein. Vous proposez la petite faim, un petit goûter dans un salon de thé. Si on n'est pas fatigué, on peut continuer à découvrir plein de lieux touristiques, des espaces cachés. Enfin, vous nous permettez de découvrir des quartiers en toute profondeur et avec tous les enfants.
Alors Marie-Laure Berny-Tarente, notre grand témoin du jour, directrice générale de Drix & Co, filiale de Pernod Ricard. On met un petit peu plus la casquette, l'entrepreneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil vous pourriez donner?
Je trouve ça génial. Déjà, je crois que je vais en parler à ma voisine du dessus. Non, je crois qu'effectivement, il faut faire attention avec tous les développements digitaux. On a à peu près le même âge là aujourd'hui autour de cette table. Et c'est quelque chose qui n'est peut-être pas natif pour nous, mais ça passe par là, le développement d'une entreprise. Et ça passe par tous les réseaux sociaux aussi. On le voit, hein, les tendances se font comme ça et les modes de consommation sont de plus en plus faciles. Donc, dès que vous aurez un parcours d'achat simplifié sur du digital, je pense que votre projet a un très, très bel avenir.
Merci.
Et je me disais aussi, les restaurants, les pâtisseries que vous proposez, on n'a pas de bon de réduction, par exemple, pour que ça nous coûte moins cher. Vous n'avez pas noué de partenariat
encore ? Pas encore. Mais
j'imagine que c'est dans l'idée ?
Ouais, tout à fait dans l'idée. C'est chaque chose en son temps. Et je suis vraiment là pour apporter du positif dans les familles et rendre les enfants curieux.
Alors, ça s'appelle Explore Happy. Merci à vous, Stéphanie Chenavier, d'être venue nous présenter vos parcours clés en main pour pouvoir amuser les grands, mais aussi les petits.
Et Nathalie Carré, on vous remercie. On vous souhaite un bon week-end. On vous retrouve lundi si vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre grand témoin du jour. Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail. e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1, La France Bouge.
Et vous êtes sur Europe 1, il est 13h50.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est déjà la dernière partie de votre émission Demain au Travail. Nous sommes toujours avec Marie-Laure Berny-Tarente, directrice générale de Drix & Co, l'une des filiales de Pernod Ricard.
Alors Demain au Travail met en avant ces entreprises qui mettent tout en place pour améliorer le bien-être de leurs salariés. Aujourd'hui, nous passons un coup de fil à Nurcea. C'est une entreprise de micro-crèche à Marseille et en Provence. Elle existe depuis 6 ans, 50 salariés en tout. Bonjour Fanny Chausseler.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et la dirigeante de Nurcea. Vous avez mis en place, vous, le Flex Office parce que, avec la crise que nous traversons, les différents confinements, il y a eu des conflits et des tensions liées à la présence et à la trop grande occupation des espaces. Qu'avez-vous décidé ?
Oui, tout à fait. On s'est retrouvé effectivement à plusieurs reprises un peu entassé dans les bureaux. Avec en plus la contrainte sanitaire qui rendait cette approche un peu problématique. Et donc, on a fait le choix d'une application qui s'appelle Coworky, qui nous permet en fait de gérer ultra simplement, en toute autonomie, chacun sur notre smartphone, nos présences dans les bureaux, de repérer les espaces disponibles, de repérer quelles sont les personnes qui sont là et avec qui on a envie de venir collaborer à ce moment-là quand on a des sujets communs. Et finalement, simplifier vraiment la vie de tout le monde.
Mais ce n'est pas un peu la bataille quand on a tous envie de venir le même jour? Ça bloque à un moment? Il faut être parmi les premiers à s'inscrire sur l'application?
Alors, on a en fait, en principe, oui. Après, il y a des personnes chez nous qui ont un roulement récurrent. Et puis, il y a des personnes qui s'inscrivent à la volée. En fait, moi, je donne une grande souplesse à mes équipes sur l'organisation entre la présence au bureau et le travail à domicile. Donc, globalement, tout le monde arrive à trouver son compte et puis on fait des petits arrangements quand on a besoin de récupérer une place quelque part et se passer quand même un petit coup de fil. On garde le lien malgré l'appli et donc on arrive à débloquer toutes les situations.
Mais c'est vrai que l'application permet de tout organiser. Ce que je crois que chez vous, vous avez décidé que c'était 2 jours de travail au bureau, le reste par ailleurs en télétravail et vous essayez comme ça d'alterner ce que vous permet l'application. C'est ça l'idée?
Exactement, tout à fait. Oui, entre le temps passé en télétravail, le temps passé par nos salariés du siège dans les crèches également en supervision. Et du coup, le reste du temps au bureau. Et donc, avec ce système de 2 jours Et grâce à l'application, ça fonctionne super bien.
Il n'y a plus de tension, tout le monde est serein?
Oui, il n'y a plus de tension.
C'est incroyable.
Ça simplifie les choses vraiment pour tout le monde. Et surtout, on sait qui est où. Il y avait souvent la question de dire, mais un tel travaille aujourd'hui?
Oui,
est-ce qu'il est en congé? Est-ce qu'elle est là? Où est-ce qu'on la trouve? Et finalement, dans l'application, on peut déterminer ses périodes de télétravail, ses périodes de congé. On a deux alternants dans l'équipe, donc les moments où eux sont à l'école. Et donc, on ne va pas les trouver, on sait pourquoi ils ne sont pas là.
L'information est plus fluide aussi, c'est ça? C'est beaucoup plus fluide pour tout le monde.
Tout à fait. C'est plus fluide, c'est instantané, c'est rapide. Voilà. C'est vrai que ça nous a vraiment facilité les choses.
Marie-Laure Berny-Tarrant, directrice générale de Drinks & Co, une des filiales de Pernod Ricard. Pernod Ricard vient de rassembler tous ses sièges au sein d'un même immeuble à Paris. Vous avez emménagé il y a maintenant de cela quelques mois.
Absolument.
Et tout était basé sur cette logique, parce que y compris votre grand patron, qui s'appelle Alexandre Ricard, qui est le petit-fils du fondateur, lui-même n'a pas de bureau. Et
absolument.
Je crois que chez vous, c'est basé autour d'une idée très bizarre, c'est celle du couloir. Parce que vous vous êtes rendu compte que l'endroit le plus important pour travailler, c'était le couloir. Et donc,
c'est
je crois que vous avez élargi les couloirs.
Absolument.
De façon à ce que ça devienne des mini-salles de réunion. Je caricature.
Non, mais pas tant que ça. On a effectivement déménagé les bureaux dans un espace qui s'appelle The Island, en plein cœur de Saint-Lazare, et qui vient de gagner le prix mondial du meilleur aménagement de bureau.
Mais pourquoi il a quoi de spécial?
Les aménagements des différents étages tournent autour de lobbies qui représentent nos marques, et d'espaces de coworking. Mmh. Donc pour 900 collaborateurs à Paris, il y a 2400 assises.
Mmh. Et donc, et comme disait Emmanuel, ça se passe aussi dans les couloirs, c'est-à-dire qu'on
flex-office, et flex-office, ce n'est pas le premier arrivé, le premier servi, puisqu'il y a plus de sièges que de collaborateurs, mais par contre, on peut bouger d'un service à l'autre, d'un étage à l'autre, c'est totalement libre.
Merci en tout cas Fanny Chausler, fondatrice et dirigeante de Nursea, qui nous a expliqué comment le Flex Office avait changé la vie de ses salariés. Merci à vous Marie-Laure Berny-Tarrant, directrice générale de Drinks & Co Store France. Vous êtes une filiale de Pernod Ricard. Merci de nous avoir raconté comment vous êtes en train de faire face à cette crise et surtout comment les personnes se mettent à arrêter l'alcool. Ça nous fait plaisir.
Arrêter l'alcool ou surtout à mieux consommer, donc à moins boire, mais on l'a entendu, à boire des alcools de meilleure qualité. Lundi, changement de programme total. Tourne à l'école, mais à distance, puisque c'est le mot du moment. On sera avec le patron du CNED, tiens, justement. Comment ça marche pour eux en ce moment? C'était une idée née il y a un paquet d'années, mais qui est plus que jamais d'actualité.
À lundi, Emmanuel, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1. Écoutez le monde changer.